RCF. Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour mes amis, bonjour Yann, bonjour mon colonel. Je crois que nous poursuivons nos échanges et nos discussions autour de ces notions de guerre, de violence, de justice, de paix, bien sûr. Et nous nous sommes quittés sur une notion qui reste à préciser.
Oui, effectivement, je ne dirais pas que je n'ai pas dormi suite à vos propos, mon colonel, mais quand même, dire que la guerre est un mal nécessaire, entendre que l'Église n'a jamais condamné la guerre de manière globale, entendre que les Saintes Écritures ne condamnent pas la guerre, c'est quand même troublant pour un catholique. Hein. Est-ce que l'Église a mis des bornes au moins ? Est-ce qu'il y a...
Écoutez, avant de voir les bornes dont vous parlez, il faut préciser que la guerre n'est pas un mal au sens moral, donc elle n'est pas condamnable. Prenez l'exemple d'une amputation. Le chirurgien, il ne veut pas la mort de son patient, il lui souhaite un plus grand bien. Eh bien, voyez la guerre un petit peu comme cela. Voilà, c'est un mal qui est toléré, accepté, en vue d'un bien qui lui est supérieur. L'Église, pourtant, a toujours cherché à empêcher la guerre, mais sans démagogie, elle s'est contentée de l'encadrer, de la limiter, plutôt que de prononcer une interdiction qui aurait été vaine et complètement inutile. Donc elle a cherché à moraliser la guerre, les conditions pour déclencher la guerre, que nous appelons le jus ad bellum, le droit pour engager une guerre, mais également l'usage que l'on fait de la guerre, le comportement que nous devons avoir durant la guerre, que nous qualifierons de jus in bello, le droit dans la guerre. J'ajoute un petit point qui est très important. En morale, les principes sont toujours assez simples à énoncer, mais la mise en pratique est bien souvent beaucoup plus compliquée, parce qu'il s'agit de composer avec le contexte ou l'appréciation que chacun peut avoir d'une situation. Donc il ne s'agira pas dans cette émission de juger de la justesse des guerres récentes.
Oui, alors vous avez parlé avec des mots un peu barbares, le jus ad bellum. Vous pouvez nous en dire un peu plus parce que...
Eh bien, je peux vous en dire plus et pour cela, je vais faire appel à saint Thomas d'Aquin qui lui-même nous a donné ses critères, en tout cas qui a beaucoup réfléchi dessus et qui nous permet de les condenser en trois grands chapitres.
Quand vous parlez de critères que nous aurions donné, des critères pour quoi faire, pour limiter la guerre, pour...
Eh bien, toujours pareil, qui permettent à la fois de limiter, mais également de rassurer et l'autorité légitime et les subordonnés pour se dire que c'est un peu comme un filtre. En fait, voilà, je suis l'autorité, je suis conseiller et je passe mon envie de faire une guerre ou ma nécessité de faire une guerre à travers des filtres qui me diront si je suis en droit ou pas de déclencher ou de répondre à une guerre, fut-elle juste ou injuste. Et donc le premier critère, c'est d'abord que cette guerre doit être déclenchée par une autorité légitime. C'est-à-dire que moi, particulier, je ne peux pas décider de déclencher une guerre. Je dois être investi d'une autorité pour pouvoir la déclencher.
Et ça existe des guerres qui ont été déclenchées par des gens alors qu'ils n'avaient pas l'autorité légitime ?
Eh bien, il peut y en avoir. Et je reviendrai à ce que je vous disais en premier lieu, c'est que je ne vais pas ici juger. Je peux vous donner des exemples sur lesquels chacun sera libre de se faire sa propre interprétation. Nous pourrions parler de, voilà, par exemple en 40, lorsque le chef de l'État, qui était le maréchal Pétain, prend la décision de demander l'armistice, vous avez un général à titre temporaire de Gaulle qui, lui, continue la bataille en partant en Angleterre. Était-il l'autorité légitime ? À ce moment-là, non. A posteriori, on pourrait en disserter. Voilà, donc l'autorité légitime est indispensable pour ne pas se faire soi-même justice. Ensuite, il faut une cause juste, bien sûr, parce que je vais me battre contre quelqu'un, contre un État. Donc si en face, on n'a pas commis une faute grave, eh bien je n'aurai pas de légitimité à intervenir. C'est pourquoi l'action défensive est quasiment toujours juste, parce qu'en fait je réponds à une agression. L'action offensive est plus discutable parce qu'elle doit répondre à une vraie menace ou réparer une vraie injustice, comme par exemple la reconquête d'un territoire.
Vous êtes en train de justifier, par exemple, la reprise de l'Alsace-Lorraine à la suite de la guerre de 1870.
Tout à fait, voilà une promesse qu'avaient fait nos dirigeants de la reconquérir. Et en dernier lieu, le chef doit également avoir une intention droite, c'est-à-dire qu'il doit être animé par la volonté réelle de vouloir le bien et d'éviter le mal. En clair, ne pas avoir d'esprit de vengeance.
D'accord.
La guerre doit également être un dernier recours, c'est-à-dire que avant de déclencher une guerre, je dois avoir mené toutes les diplomaties, toutes les parlementations nécessaires pour l'éviter. C'est pourquoi parfois on dit que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, parce que l'on a tout essayé. Mais ce n'est pas récent. Louis XIV, sur ses canons, avait fait graver le dernier argument des rois, « Ultima ratio regum ».
Sur le canon, il y avait cette expression qui
tout
était
gravée. Tout à fait. Sur le canon est gravé le dernier argument des rois. Donc ça montre bien qu'avant, on avait essayé d'épuiser toutes les autres possibilités. Pour mener une guerre juste, il faut également un dernier critère, c'est avoir des chances raisonnables de gagner. C'est-à-dire que je dois avoir me lancer dans la bataille en mettant les moyens qui vont me permettre d'obtenir le but que je me suis fixé. Sinon, je risque d'agir par orgueil.
Eh bien, je vous propose de nous lancer sans fanfare, mais en musique, dans une petite pause. Poursuivons un petit peu ces conditions de la guerre juste et les conditions d'un engagement. Y aurait-il, derrière ce que nous avons déjà évoqué, une question d'intention, une question plus profonde, en quelque sorte.
Il pourrait être une limite à l'engagement d'une guerre.
Eh bien, nous venons de voir avec le Ius ad Bellum les conditions pour lancer la guerre, quels étaient les critères essentiellement donnés par saint Thomas d'Aquin pour qu'un chef puisse raisonnablement se lancer dans la bataille. Maintenant, voyons le Ius in bello, le droit dans la guerre. Et c'est là où nous allons repartir sur la notion d'intention droite que nous allons décliner, là non pas au niveau du chef, mais au niveau de tous les soldats, que ce soit le plus petit des grades jusqu'au général qui va commander une armée en opération. Mais revenons un peu en arrière. Je vous ai expliqué que l'Église a toujours cherché à limiter la guerre, à défaut de pouvoir l'interdire. Qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir la cadrer? Eh bien, je vais vous donner deux exemples. Tout le monde connaît ce terme de trêve de Dieu, qui cherchait à limiter dans le temps l'usage des armes. Eh bien, permettez-moi de vous citer toutes les périodes de l'année où la guerre était interdite. Vous verrez, ça représente à peu près les deux tiers de l'année. Le temps de l'Avent, le temps de Noël jusqu'à l'Épiphanie, le temps du Carême, puis le temps pascal, mais également tout le reste de l'année, du mercredi soir au lundi matin.
Même ça, c'était valable en période de chrétienté, parce qu'aujourd'hui...
Vous avez raison. Et en période de chrétienté, il y avait également la chevalerie qui avait été créée afin de christianiser les soldats, de contribuer à la moralisation de la guerre. Mais évidemment, vous avez raison, ces deux critères ne sont plus appliqués dorénavant. Mais afin de conduire une guerre dans un esprit chrétien, deux conditions restent à respecter, qui étaient déjà d'actualité au temps de saint Thomas d'Aquin et qui perdurent bien évidemment aujourd'hui. Nous pourrions les appeler la discrimination et la proportionnalité.
Discrimination ?
Eh bien, discrimination, c'est-à-dire que l'on va faire la part des choses et on va chercher à limiter les dommages que peuvent causer les guerres. Très simple, je vais préserver les populations. Voilà, je ne m'attaque pas à ceux qui ne concourent pas directement à la guerre. Je ne détruis pas des bâtiments qui n'ont pas vocation à soutenir l'armée adverse. Je n'attaque pas des objectifs qui ne visent pas à me nuire. Et au premier lieu, les populations. Si je prends en otage des populations en les bombardant, je ne respecte pas ce principe de discrimination. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la guerre, les militaires portent des uniformes pour qu'on puisse les reconnaître. Et vous verrez que chaque pays a un camouflage différent, une tenue avec des couleurs différentes qui permettent d'emblée de savoir à quel pays appartient un soldat. Voilà, donc la guerre doit respecter ce principe de discrimination, mais également de proportionnalité, c'est-à-dire que je dois utiliser la violence que nous avions vue à l'émission précédente à son juste niveau, toujours dans le même esprit, afin de ne pas rentrer dans une escalade de la violence et donc de limiter les dommages, les maux qui sont engendrés par la guerre. Alors ces conditions de discrimination et de proportionnalité qui ont été de tout temps prônées par l'Église ont été reprises au XIXe siècle lorsque le droit international humanitaire s'est intéressé à ces questions, notamment à travers M. Henri Dunant. Et donc tout ceci a été formalisé. Vous voyez bien qu'à l'origine, c'est bien l'Église qui, la première, avait réfléchi à ces conditions et que comme ça avait été bien pensé, bien réfléchi, eh bien naturellement, cela a été repris au niveau international.
Tout ça semble effectivement du bon sens, d'abord. Qu'effectivement l'Église en effet une doctrine et qu'elle nous l'enseigne à travers les éclairages de la doctrine en matière politique et sociale. Bon, je comprends que l'Église est à l'origine de la moralisation de la guerre, c'est clair. Les critères que vous venez d'évoquer, autorité légitime, cause juste, dernier recours, hein, j'ai retenu l'ultima ratio, l'ultime raison des dirigeants, des gouvernants, des rois. Bien, mais il y a quand même une chose, hein, c'est que régulièrement on voit des polémiques concernant les guerres contemporaines. Est-ce que toutes les guerres méritent d'être menées, d'être engagées? Et puis surtout, est-ce que un militaire, et là on attaque un sujet délicat, un militaire peut-il être catholique? Est-ce que c'est conciliable? Je crois qu'on va être obligé de vous faire revenir.
Moi, je le poserai différemment. Un catholique peut-il être militaire?
Un catholique peut-il être militaire? Ben, écoutez, nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur le sujet.
Le rendez-vous est pris.
Le rendez-vous est pris. Ben, merci, mon colonel, une fois encore, pour votre disponibilité. Et puis donc, à la prochaine fois sur peut-on être catholique et militaire.